alors maintenant sur la série.
Un doodle ?
Alors non.
Comme les autres, je trouve ça assez maladroit.
Fort conservatisme patrimonial et
c'est... On ne se moque pas.
On fait avec ce qu'on a.
Je cherchais une contrepétrie avec urne et j'ai...
J'y passe tous les jours.
Alors, d'abord, peut-être, est-ce qu'il y a des réactions sur l'enquête sur le Brésil ?
Ce scandale sur le pétrole, il arrive un peu au pire moment possible, justement, parce que le contexte économique est assez tendu. Le pétrole, les prix ont été divisés par deux en peu de temps.
C'est pour un pays qui dépend de ses exportations.
Justement, on appelle ça en économie, on appelle ça le Dutch disease. C'est une spécialisation, en fait. On se spécialise dans les matières premières tant qu'elles valent beaucoup. Et puis, en fait, on augmente l'offre, le prix s'écroule, l'économie s'écroule. Et c'est un peu ce qui se passe au Brésil, sachant. Et en plus, quand on sait les problèmes d'inégalité qu'il y a, il n'y a pas beaucoup de routes de secours.
Non, on va continuer à parler un petit peu d'économie. Tu nous parlais de la loi Macron qui va être discutée au Sénat. Alors moi, j'ai regardé un petit peu le contenu de cette loi Macron avec des mesures extrêmement fortes pour sauver l'économie. Alors le travail le dimanche, bien sûr, dont on a beaucoup entendu parler, mais aussi la libéralisation des autocars, parce que, je cite Emmanuel Macron, les pauvres, ils ne peuvent pas prendre le train. C'est quand même une loi qui... Une loi fourre-tout, oui, exactement.
Moi, pour le cœur, je trouve ça bien.
Oui, moi aussi. ces aspects-là, que ce soit port, les auto-écoles, qu'on les fasse passer par les facteurs, il avait dit, quand on sait le prix que ça coûte, voilà. Ce ne sont pas les aspects les plus discutables de la loi.
Non, je disais ça de manière ironique, dans la mesure où l'État aussi investit dans des lignes TGV qui remplacent les petites lignes TER ou intercités et qui coûtent beaucoup plus cher.
Moi, le week-end dernier, j'ai été en Limousin de Lyon. J'ai fait Lyon-Paris, Paris-Limoges.
Oui.
Et c'est 7 heures par, c'est 6 heures en passant par Clermont, en prenant deux TER et un autocar. Et j'en ai pour presque 100 euros, entre 75 euros. Quoi.
Ouais, donc...
Et si on pouvait avoir un autocar qui fasse, je sais pas, Lyon-Bordeaux, quoi, ou même...
Mais ça existe,
Surtout que, par exemple, Lyon-Bordeaux, c'est ce qu'on fait de pire comme ligne de train, parce que, tout simplement, soit on passe par Toulouse et c'est interminable, je parle en connaissance de cause, soit on passe par Paris, donc ça fait un gros détour, et au final, je crois qu'on met une demi-heure de plus qu'il y a 50 ans pour faire un Lyon-Bordeaux parce que les lignes régionales ont été, avec le tout TGV, ont été abandonnées.
Oui, complètement abandonnées. Et donc, tu parlais des aspects les plus contestables de cette loi. Tu nous en dis un peu plus ?
Alors, contestable, je dirais plutôt controversé. Enfin, voilà, soyons plus réservés. Faut pas rêver, c'est une loi qui est en effet fourre-tout. Loi pour l'activité et la croissance, je ne sais plus exactement le nom. Et donc, il y a un peu de tout. Il y a des professions réglementées. Donc, ça, et encore pas toutes, parce qu'il y a eu des tollés de certaines qui ont réussi à garder leur rente. Après, il y a bien sûr le travail le dimanche. Enfin, faut pas rêver, c'est pas ça qui va relancer la croissance. Moi, quand je vous parlais de reprise, j'ai parlé de choc exogène. Donc ça veut dire que c'est des chocs qui ne sont pas dans les mains du gouvernement, donc qui sont positifs. Faut en profiter, mais est-ce que c'est cette loi qui va faire des chocs endogènes ?
C'est pas sûr.
D'ailleurs, ils réfléchissent à l'étape d'après.
C'est assez drôle pour revenir sur le Royaume-Uni.
On va en parler après.
Mais c'est pas sûr que c'est les élections sur le point économique, d'accord, justement. C'est assez intéressant de voir à quel point la France est devenue le contre-modèle absolu au Royaume-Uni. Moins d'un mois, c'est le ministre des Finances George Osborne qui a présenté en fait les résultats économiques du pays qui sont eux quand même meilleurs et globalement bons par rapport aux nôtres. Et il s'est fait un plaisir de faire du French bashing à tout va en disant, par exemple, prenez la province du Yorkshire qui produit 7 fois plus quand même que la France toute entière. Et c'était un petit peu un affront pour nous, mais ce qui était au vu des chiffres assez vrai. Et eux, ils peuvent se glorifier de chiffres plutôt bons. Après, des politiques d'austérité quand même qui ont été menées au pas de charge aussi, mais qui ont été faites.
Ouais, alors on va rebondir là-dessus et on parlera des départementales après, mais je voudrais revenir sur les Britanniques parce que j'ai... sur cette austérité et sur les difficultés au Royaume-Uni. Je vous ai dégoté une petite info insolite, puisque j'ai lu ça dans Courrier International le 31 mars, une grève menace le château de Windsor.
Oui,
parce que les employés réclament de meilleurs salaires, tout simplement. Ils réclament aussi des gratifications, parce qu'ils exercent tout un tas de missions qui ne sont pas payées. Ils font des visites, ils font de la traduction avec les touristes, et ils ne sont pas payés pour ça. Ils font énormément d'heures supplémentaires. Ils ont un salaire qui est bien plus bas que le salaire minimum. Et carrément, le personnel de la reine prêt à faire grève. Et du coup, moi, je voulais vous demander, cette monarchie anglaise aujourd'hui, elle va comment? Est-ce qu'elle est toujours aussi populaire?
Elle est populaire, mais elle sert à rien, donc elle est aussi très coûteuse.
Et encore, elle est redevenue populaire parce qu'elle était très, très critiquée encore dans les années 60, où on voyait plus, l'utilité de cette monarchie dans les temps modernes. Et en fait, la personnalité d'Elisabeth II a fait que, en fait, elle a unifié l'image de la monarchie derrière elle, derrière un capital sympathie, qui a fait qu'en fait, cette question qui se posait était devenue obsolète, en fait.
Oui, d'accord.
Alors, dans les années 90, quand même, elle a dû faire face à une vague d'opinion qui était assez défavorable, avec l'histoire de Diana, etc., oui. Avec aussi l'incendie du château de Windsor, où on s'est aperçu qu'il faudrait repayer, et que là, la question de qui devait payer s'est posée. Alors, en fait, il y a un système très particulier. C'est le Parlement qui alloue chaque année une certaine somme d'argent à la monarchie. Et là, on s'est dit, non, mais on ne va pas payer pour eux, pour leur réparation, etc.
Oui.
Moi, j'avais une question pour Lino. Est-ce qu'on peut vraiment comparer les chiffres du chômage en Angleterre et en France?
Pas vraiment, parce qu'en fait,
il
n'y a pas les mêmes temps de travail.
C'est-à-dire
qu'en Angleterre, c'est un emploi qui est beaucoup plus flexible. On va faire quelques heures sous-payées. Donc, c'est des arbitrages qui sont très différents. En effet, le taux de chômage anglais est faible. Mais par exemple, la Banque d'Angleterre commence à s'inquiéter sur les perspectives de l'Angleterre, en particulier l'essoufflement du quantitative easing, et en train de craindre en particulier l'évaluation de la livre par rapport à l'euro. Et puis, au-delà des problèmes d'inégalité qui sont forts en Angleterre.
Oui, qui restent extrêmement élevés.
Mais récemment, d'ailleurs, le Royaume-Uni aurait pris la place de cinquième puissance économique à la France.
Comme encore, la Chine aurait pris la place de première puissance économique aux États-Unis, c'est difficile à calculer.
Oui, juste sur ça, ça vient aussi, y a quelque chose qui vient, c'est que la Grande-Bretagne a pris en compte l'économie souterraine dans le calcul du PIB.
Ah oui, la drogue.
Donc la prostitution et la drogue peut être en partie responsable de ça, du fait que la Grande-Bretagne est passée devant la France.
La Grande-Bretagne imite un pays du Sud, c'est une première, elle imite l'Italie qui avait fait la même chose il y a quelques mois. Repassons la Manche et revenons en France un petit peu pour parler un petit peu des départementales, mais peut-être pas très longtemps. Ma question est simple, je vous demandais dans le dernier numéro ce que donnaient les pronostics chez vous. Et maintenant que le vote est passé, alors quel résultat dans nos régions, puisqu'on est, nous sommes tous des représentants d'une région, profitons-en.
Moi, j'ai juste, le Calvados est passé à droite, voilà, c'est pas une surprise.
Oui.
Mais j'étais chez ma grand-mère, chez mes grands-parents ce week-end, dimanche, et j'ai accompagné ma grand-mère voter. Et en fait, à Limoges, au premier tour, il y avait deux duels PS UMP et les candidats UMP ont oublié de s'inscrire en fait. Je sais pas si vous avez entendu parler de cette et donc du coup dans le canton de ma grand-mère est allée voter, il y avait un bulletin.
D'accord.
PS, voilà.
D'accord.
Et du coup, il n'y avait pas de risque de se tromper.
Oui.
C'était assez cocasse comme anecdote qui a été révélée par le monde. Il y en a qui ont dû
effectivement,
se mordre les doigts.
C'est cocasse. Et Céline, chez toi
la famille.
Moi, la Haute-Loire est restée à droite. Mon canton est resté à droite. De fait, le PS n'a pas fait de très grands scores, même c'est pas du tout. Enfin, c'était une catastrophe pour lui. Et petite anecdote, encore une fois, la Haute-Loire va se faire remarquer, mais on a eu un bulletin pour Zlatan Ibrahimovic quelque part en Haute-Loire. Je ne sais pas pourquoi, mais voilà, j'ai pensé que ça vous ferait rire.
Oui. Et Lino, qu'est-ce que ça donne du côté de Toulouse?
Du côté du sud-ouest, c'est, si vous regardez la carte, c'est le seul endroit où ça reste rose.
Oui, globalement.
Voilà. Moi, dans mon canton, on avait une triangulaire où en fait, on n'avait que 4 candidats et au premier tour, c'est devenu une triangulaire. Mmh. Le PS est passé, a bénéficié d'un report de voix, en fait.
Oui.
Mais donc moi, je suis dans une des seules régions où c'est resté rose.
Et pour moi, en Haute-Normandie, dans l'Eure, eh bien, bon, bah, la Haute-Normandie, l'Eure est repassée à droite, elle était à gauche depuis...
Le Calvados.
Comme, ouais. Et depuis 2001 ou 97, je ne sais plus, pour la Haute-Normandie. Mais mon canton, lui, est resté à gauche. Le candidat local, très bien enraciné, a fait 44% au second tour et... au premier tour, pardon, et dans le cadre d'un duel avec le FN, a rassemblé 60% des suffrages, sans doute grâce à sa couleur locale.
Oui, c'est vrai que c'est quelque chose qui était assez flagrant là, c'est que au final, on a très peu. Enfin, c'est une élection locale, mais.
On en a très peu entendu parler d'enjeux locaux, oui.
C'est ça.
Alors, on va maintenant conclure ce troisième numéro, chers auditeurs et chères auditrices. J'espère qu'il vous a intéressé, que vous aurez envie d'écouter le prochain numéro, peut-être écouter les précédents. Et le prochain numéro, le quatrième, parlons-en. Vous le retrouverez dans 3 semaines et non 2. Alors, rendez-vous le 25 avril pour le quatrième numéro, le lendemain de la journée de la radio, à laquelle Transistor vous invite évidemment très nombreux. Merci à ENS Media, à la régie et au jingle. Une dernière chose, n'hésitez pas à nous faire part de vos remarques et commentaires, de vos réactions aussi sur la page web de l'émission. N'hésitez pas non plus à nous soumettre des idées de sujets que vous voudriez voir abordés dans les prochains numéros, notamment dans l'enquête. Sur ce, à dans 3 semaines.
Un tweet. Right. Ba-ba-boop, ba-ba-boop.